à l'écoute de Radio Calade. Tout de suite, le magazine. Alors qu'il est au sommet d'une carrière de photojournaliste fulgurante, Gilles Caron, grand reporter de l'agence Gamma, disparaît brutalement au Cambodge en 1970. Il a tout juste 30 ans. À partir des milliers de photographies qu'il a faites au cours des événements les plus marquants de son époque, des conflits du monde, la réalisatrice Mariana Otero, dans son film documentaire « Histoire d'un regard », redonne une présence au photographe et raconte l'histoire de ce regard si singulier.
Un jour, un ami m'a envoyé un livre, la biographie d'un photographe, Gilles Caron.
Mariana Otero, c'est sa fille, une de ses filles, qui vous a fait confiance et qui vous a fait un cadeau, j'allais presque dire.
Oui, c'est sa fille, mais aussi sa femme, hein, Marianne Caron, et la fondation, qui, effectivement, à partir du moment où j'ai émis le désir de faire un film sur Gilles Caron, ils m'ont confié toutes ces photos, c'est-à-dire 100 000 photos sur leur forme numérisée. Et à partir de là, j'ai pu déchiffrer en fait ces images pour essayer de raconter l'histoire de son regard. C'est de 1900, en fait, Gilles Caron a été photographe de 1965 à 1970. Donc c'est 5 années où il a arpenté le monde, hein, sur les plus grands conflits mondiaux du moment, donc la guerre des 6 jours, la guerre du Vietnam.
On va y revenir effectivement. Ouais. On va partir vraiment au moment de votre documentaire en fait. Vous arrivez donc avec toute cette collection de pellicules, en tous les cas, que vous numérisez. Et puis, il faut faire un choix. Et là, ça a été sans doute quelque chose d'assez compliqué, j'imagine, de pouvoir commencer par le petit bout de la lorgnette, en quelque sorte, cet héritage.
J'ai commencé d'abord par remettre en ordre, en fait, tous les rouleaux. C'est ça qui a été vraiment ce qui m'a permis, en fait, de connaître vraiment ces photos, c'est ce travail-là, puisqu'en fait, à l'époque, l'agence Gamma ne classait pas les photos par ordre où elles avaient été prises, mais comme ça, dans un ordre aléatoire, puisqu'on ne voyait pas les pellicules. Hein, Et donc, moi, pour pouvoir comprendre le regard de Gilles Caron, il a fallu que je remette tout en ordre. Et ça m'a permis vraiment de connaître très, très bien sa manière de faire. Et c'est ça que j'ai voulu retranscrire dans le film, en choisissant les reportages qui me semblaient les plus intéressants et parmi eux, les moments qui me semblaient pouvoir raconter vraiment son évolution intime dans son rapport à la photographie.
Une recherche de fourmi, puisque vous partez effectivement, j'allais dire, d'une série de photos pour retrouver le début, quelquefois qui est même déplacé. Et avec ça, vous décryptez véritablement tout le parcours du regard, justement, hein, de capter le regard du photographe. Comment on arrive à faire un truc pareil ?
En passant des heures et des heures, c'était très chronophage. C'est vrai que c'était, mais c'était absolument passionnant parce que je pense qu'il y a très très peu de, enfin c'est très rare de pouvoir avoir accès comme ça à toute une œuvre et de pouvoir regarder des photos qu'on pourrait dire des photos ratées en fait. Hein. Mais il y en a très peu chez Gilles Caron. Franchement, c'est chaque pellicule et enfin vraiment il y en a. La plupart sont réussies, elles sont toutes intéressantes. Et donc, je pouvais reconstituer en fait son trajet sur les lieux en me basant sur des tout petits détails, hein, des fois sur des taches sur les murs, etc. Enfin, j'arrivais comme ça à reconstituer son trajet. J'avais l'impression d'être sur son épaule, en fait, derrière lui, et d'être sur ses pas, de le côtoyer, d'être... c'est d'ailleurs pour ça que la voix off du film, je le tutoie, parce que j'ai vraiment l'impression d'être avec lui et de pouvoir comprendre comment il va de tel endroit à tel endroit, pourquoi il fait telle photo, pourquoi il fait tel gros plan, pourquoi celui-là plutôt que celui-là. Enfin, il y avait quelque chose comme ça de très... d'archéologique presque et d'absolument passionnant. Quoi.
Et puisqu'il y a une fameuse photo que tout le monde connaît, toutes les générations, j'allais dire, la connaissent, celle de Daniel Cohn-Bendit.
En fait, c'est le premier reportage que j'ai regardé et c'est vraiment celui-là qui m'a totalement accroché et qui m'a convaincu de faire ce film. Parce que donc, il y avait deux pellicules qui étaient d'ailleurs mal rangées, mal classées. Et là, j'ai vraiment pu comprendre comment il est arrivé à cette photo qui est devenue très célèbre et qui représente mai 68. En fait, d'une certaine façon.
Qui est un peu universel, moi, j'allais dire, parce que je pense que toutes les presses étrangères
oui.
l'ont prise.
Oui, ouais. Tout le monde connaît cette photographie qui est vraiment toute une époque. Enfin, c'est vraiment ça représente vraiment la jeunesse comme ça qui affronte de façon ironique, avec humour, l'ordre de l'époque. Et cette photo, j'ai réussi à comprendre comment il est arrivé là, comment il avait cherché depuis déjà un certain temps à photographier ce face-à-face, mais comment c'était pas la bonne place et comment il finit par par la trouver. Enfin, et là, c'est vraiment en analysant ces deux pellicules que je me suis dit, mais j'ai envie de regarder tout ce qu'il a fait, quoi. Enfin, c'était vraiment j'ai été totalement happée et accrochée.
Et aussi, le fait que vous ayez repéré la complicité de Daniel Cohn-Bendit à ce moment-là, puisqu'il va chercher également le regard du photographe, qui est assez extraordinaire.
Oui, c'est-à-dire que c'est pas... la photo, il l'a fait avec Cohn-Bendit. Il n'est pas totalement extérieur. Et ceci dit, ça quelque chose que je retrouve dans toute son œuvre, hein, et qui fait écho d'ailleurs à un travail comme le mien de documentariste. C'est-à-dire qu'il fait les photos avec les gens. Les gens deviennent des personnages. Et là, Cohn-Bendit est évidemment un personnage qui est complice de la photographie.
Je me suis aperçue que certaines de ces photos habitaient ma mémoire. La guerre des six jours, mai 68, le conflit nord-irlandais, la guerre du Vietnam.
Vous touchez à quelque chose d'important sur cette histoire des Biafrais, celui effectivement d'avoir ce regard-là, d'être observateur, témoin, mais en même temps un peu acteur.
Oui, Caron, ce qui est assez incroyable, c'est qu'en fait, il est devenu célèbre dès son premier grand reportage de guerre, donc en Israël pendant la guerre des six jours. Il est très jeune, la photo, il ne l'a pas étudiée, c'est pas un théoricien. Et donc, en fait, c'est dans la pratique que toutes les grandes questions des photoreporters, il va se les poser. C'est pas de façon théorique. Et quand il arrive effectivement au Biafra et qu'il photographie ses enfants biafrais avec un ventre énorme, enfin, c'est peut-être une des premières fois qu'on photographie une famine, en fait. Évidemment, la question qui se pose à lui, enfin, je dis évidemment, peut-être certains ne se seraient pas posés. En tout cas, lui, ça lui pose évidemment question, parce que c'est quelqu'un qui a une très forte éthique, hein, Gilles Caron, qui est très politisé. Et donc, il se dit, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? À quoi je sers? Est-ce que mes photos vont être utiles? Alors oui, elles vont être utiles, il s'en rendra compte, parce qu'il y aura des aides qui seront apportées, une aide humanitaire. Mais malgré tout, est-ce qu'il n'est pas en même temps utilisé par certaines parties du conflit? Et ça, c'est, je pense, une question... Et puis est-ce qu'il ne serait pas plus actif en faisant autre chose, en fait? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il soigne? Enfin, j'imagine qu'il s'est posé toutes ces questions. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai... Cette question, on la voit, alors c'est là que c'est très fort, et on la voit dans les photos qu'il fait, quoi.
Et puis sa disparition au Cambodge, en 1970, il a tout juste 30 ans. J'ai voulu comprendre son parcours, sa manière de voir le monde.
On a cité également le mur de lamentation. À un moment donné, on a l'impression qu'il a, comment dirais-je, je ne sais pas comment dire, mais une petite fée en haut de sa tête, parce qu'il arrive au bon moment également, sans pour autant savoir ce qu'il est en train de photographier. Voilà.
Oui, alors c'est-à-dire que quand il arrive,
une chance incroyable.
Non, mais d'ailleurs, il en parlera de cette chance. Hein. Il a l'impression, lui, d'avoir eu beaucoup de chance jusqu'au moment où il va commencer à comprendre qu'il en a peut-être moins. Voilà, mais ça c'est vraiment. Alors bon, c'est de la chance, mais c'est aussi il a fait la guerre, quoi. Donc c'est quelqu'un qui connaît les conflits, qui sait comment se placer face à une armée, qui sait négocier et qui prend des risques que d'autres prenaient pas. Pendant la guerre des six jours, entre autres, il a décidé, plutôt que de monter dans l'autocar qui amenait tous les journalistes sur le terrain, lui, il a décidé de prendre une voiture et de s'aventurer. Et donc, il est arrivé avant tout le monde. Et il a fait donc les premières photos, mais sans vraiment savoir de quoi il s'agissait. Donc, c'est à la fois de la chance et en même temps, cette chance, il la provoque quand même. Et puis, son passé de soldat lui donne, je pense, une capacité à se mouvoir comme ça qui lui permet d'être à la bonne place.
6 années de reportage, 100 000 photos, 2590 planches contact, c'était elle qui allait pouvoir nous restituer quelque chose de son regard.
Ça, c'est vraiment quelque chose de très incroyable en lui, c'est que dans une pellicule de 36 vues, il y en a au moins 30 qui sont exploitables, quoi. C'est incroyable.
Est-ce qu'aujourd'hui, les journalistes prennent, ou les reporters, enfin, etc., prendraient autant de risques?
Oui, il y en a. Enfin, je pense que oui, bien sûr, il y a beaucoup de reporters qui prennent autant de risques. La grande différence avec cette époque-là, c'est que, par contre, ils sont pas du tout financés, quoi. Très, très mal financés. Donc, les reporters de guerre aujourd'hui, non seulement prennent des risques, mais en plus, ils n'ont pas de moyens vraiment pour vivre. Ils sont obligés ils vont eux-mêmes sans être financés sur des terrains. Et donc, dans l'espoir de pouvoir vendre les photos après. Donc, c'est encore plus compliqué aujourd'hui qu'à l'époque de Caron, qui était quand même la grande époque du reportage de guerre photographique.
C'est intéressant de voir quand il fait des photos et quand il n'en fait pas. Donc quand il rentre dans la vieille ville, pourquoi il photographie par là? Il s'est quand même mis au bon endroit, parce que lui, il a vu avant et après.
On pourrait croire, oui, c'est le passé, 65, 70, etc. Non, c'est encore très brûlant, quoi. Et c'est à la fois désespérant et en même temps très important d'aller interroger comme ça le passé d'histoires qui sont encore vivantes, quoi.
Vous allez faire la première à l'Olympia. Il faut trouver à chaque fois la petite histoire, truc-muche avec truc-muche, qu'on va vendre le lendemain, France Dimanche ou ici Paris. Oui.
À travers son regard, Gilles Caron nous raconte l'histoire de son époque. Il nous raconte aussi son histoire.
Histoire d'un regard, film documentaire de Mariana Otero. La réalisatrice était l'invitée du festival Les Rencontres du cinéma francophone en Beaujolais 2019. Votre magazine en réécoute sur radio-calade.fr.